crime s'installe ce soir à Bruxelles pour vous faire découvrir trois faits divers qui ont marqué la capitale belge. Crime à Bruxelles, c'est tout de suite.
Dimanche 31 août 2011, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Bruxelles, dans la commune de Houdan-Gony. Marilyn se réveille dans l'angoisse. Charlotte, sa fille de 18 ans, n'a pas regagné le domicile familial. Alors que la famille et les amis sont rongés par l'inquiétude, un homme de 33 ans va se signaler auprès des enquêteurs bruxellois. Il raconte avoir étranglé une jeune femme et s'être débarrassé du corps à l'aide d'une valise. Mais voilà, le meurtrier ignore tout de sa victime, jusqu'à son prénom.
D'emblée, il me dit, écoutez, voilà, j'ai tué quelqu'un hier et je tiens absolument à me constituer prisonnier.
Bruxelles, 7 octobre 2008, Jessica s'inquiète. Sa mère, coiffeuse de profession, ne s'est pas rendue à l'école de coiffure où elle doit dispenser un cours. Christine ne répond pas non plus à son domicile. Mais c'est bien à l'intérieur de cet appartement que les policiers découvrent son corps. Il est dénudé et couvert d'ecchymose. La victime est morte, étouffée et étranglée. Pour les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, l'enquête s'avère fastidieuse jusqu'à ce qu'un ADN finisse par parler.
Elle était en recherche d'un grand amour et je pense que ça fait partie de sa fragilité et de sa vulnérabilité.
Tout semble calme dans la petite commune de Mons jusqu'à ce qu'un policier découvre un sac en plastique avec à l'intérieur une main. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Des pieds et des cuisses vont également être retrouvés, puis un tronc de femme, et pas n'importe où, en bordure d'une rivière qui s'appelle la Haine. Ces restes humains appartiennent à 5 femmes, chacune d'elles a été dépecée avec méthodologie. Qui sont-elles? Pourquoi sont-elles passées entre les mains de ce redoutable dépeceur? Un dépeceur qui va encore frapper.
C'est une affaire qui défrayait la chronique, c'est tous les jours qu'on découvrait des morceaux de corps, des morceaux de cadavres sur différents sites.
Crime revient tout d'abord sur l'histoire tragique de Charlotte, une adolescente de 18 ans dont le destin va basculer un soir d'été. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui suit, vous allez découvrir l'histoire de Charlotte, âgée de 18 ans, partie faire la fête avec ses amis. Elle ne reviendra jamais. Une disparition mystérieuse, une enquête qui peine à démarrer, mais surtout un suspect qui n'est pas celui qu'on croit.
D'emblée, il me dit, écoutez, voilà, j'ai tué quelqu'un hier et je tiens absolument à me constituer prisonnier.
Au sud de la Belgique, à 60 km de Bruxelles, dans la province francophone du Hainaut, se trouve la petite ville de Houdan-Gony. Le canal du centre qui la traverse lui donne des allures champêtres, propices à la promenade.
C'est une région qui n'est pas très riche économiquement maintenant, qui l'a été à une certaine période, mais qui est en gros une région assez tranquille. Il est vrai qu'il existe une délinquance qui est un peu liée à la paupérisation, mais c'est un village en général très, très tranquille.
C'est dans ce petit village que vivent Marilyn et ses 3 enfants. Jonathan, 22 ans, Charlotte, 18, et la petite Alicia, 3 ans. Mais ce matin du 31 juillet 2011, la mère de famille est inquiète. Charlotte, la cadette, sortie la veille, n'est toujours pas rentrée.
J'ai envoyé un premier message, je crois, vers 10 heures, en disant « Coucou chat, comment tu vas? Réponds-moi s'il te plaît. » Et comment? J'ai pas eu de message. Et là, ça me semblait déjà bizarre, parce que c'est pas dans son genre. Elle me répondait à tout moment.
Mais la veille, samedi soir, Charlotte et sa meilleure amie Anaïs étaient sorties à la fête d'un village voisin, accompagnées d'Andy, un de leurs amis.
Elles avaient décidé de sortir au Rue, donc c'est le village à côté. Et apparemment, il n'y avait pas grand-chose au Rue, c'était le bal des lampions. Et là, comment elles ont décidé d'aller à Bruxelles? Qui a décidé l'une ou l'autre? Ça, je ne saurais pas dire.
Charlotte vient tout juste de terminer son stage de fin d'études. Elle voulait donc fêter ça. Plus tard dans la soirée, Marilyn avait reçu un texto de Charlotte et l'avait autorisée, exceptionnellement, à se rendre à Bruxelles.
C'était vraiment exceptionnel ce jour-là de partir à Bruxelles. C'est la première fois qu'on partait aussi loin. On était toutes folles de sortir, on était toutes contentes. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus sorties.
Pour Marilyn, cette sortie ne représentait pas un danger. À 18 ans, Charlotte est une jeune fille sérieuse qui ne l'avait jamais laissée sans nouvelles.
Charlotte est une jeune fille épanouie. C'est une jeune fille de son âge et qui vit ce que vivent les jeunes de son âge. C'est une jeune fille qui a des amis, c'est une jeune fille qui sort, mais qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne se drogue pas.
Moi, je disais toujours, c'est mon ouragan et après mon rayon de soleil. On était fort fusionnels. Elle me racontait tout, moi, je savais toute sa vie, comme moi, elle savait toute ma vie aussi.
Mais alors, pourquoi ce silence? Marilyn est morte d'inquiétude.
Là, j'ai commencé à paniquer, je dis c'est pas possible et tout ça. Donc là, après, comment on a encore attendu un peu, et là, vers 4-5 heures, moi, j'ai téléphoné à la police.
Même si Marilyn veut croire que sa fille sera de retour très vite, elle est rongée par les questions. Que s'est-il passé ce samedi soir du 30 juillet 2011? Pourquoi ce silence assourdissant? Où se trouve Charlotte, âgée tout juste de 18 ans. C'est au commissariat de La Louvière, à quelques kilomètres du petit village d'Oudin, que Marilyn se rend pour signaler la disparition de Charlotte, absente depuis près de 12 heures. Au comble de l'inquiétude, cette mère de famille espère y trouver de l'aide.
Les deux paroles qui m'ont dit « Oui, mais madame, elle va avoir 19 ans, comment ? C'est peut-être une fugue. » Je dis « Écoutez, une fugue, j'étais certaine à 100%. » Je dis « Elle ne m'a jamais fait de fugue, jamais. » C'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec Charlotte. Et alors, après, ils m'ont dit « Écoutez, madame, elle a peut-être rencontré quelqu'un et elle passait un bon moment. » Mais textuellement, hein, comme ça. Et là, j'ai dit « Écoutez, monsieur, si elle passerait un bon moment, elle m'aurait prévenue. »
À la base, moi, je voulais pas parce que mes parents allaient m'engueuler. Mais je suis quand même partie. Et donc, on est parti vers Bruxelles. Et là, on a fait. On était dans les dancing, on était boire des verres.
Insouciant, Charlotte et ses deux amis se rendent dans un quartier branché de la capitale. Ici, la fête bat son plein jusqu'au bout de la nuit. Passé deux heures, ils décident alors de faire une pause. Et c'est là que la soirée aurait basculé.
On était mangé au McDo, il était bien 2h au matin. C'est là que Anthony l'a appelé pour dire qu'il avait son anniversaire sur Bruxelles justement et si on pouvait le rejoindre.
Anthony, c'est un garçon qu'elle a connu sur... Elle le connaissait depuis 6 mois, je pense. Mais je savais que c'était le garçon qui avait une agence immobilière et tout ça. Allez.
Anthony, 33 ans, fête son anniversaire dans un bar à l'autre bout de la ville. Charlotte ne veut pas manquer cette occasion et réussit à convaincre ses amis de s'y rendre. Andy passe chercher la voiture et le trio prend la route en direction de cette soirée.
On arrive au Zanzibar. Charlotte s'en va prévenir Anthony comme quoi elle est avec deux amis. Mais Anthony ne veut pas qu'on rentre. Se disant que c'est une soirée privée, que Andy n'a pas de chemise et qu'il ne sera pas accepté.
Charlotte, visiblement sous le charme d'Anthony, décide de faire faux bond à ses amis et part rejoindre Anthony pour profiter de la soirée.
On l'a attendu et après, une demi-heure après, elle est revenue. Elle nous a dit « je vais demander à maman pour dormir chez Anthony ».
Elle m'a envoyé un message à 2h30 du matin en me disant « maman, je dors chez Anthony ». Donc je savais qui c'était. Et là, je lui ai dit « oui, pourquoi ?» Je ne sais pas.
Anthony serait donc la dernière personne à avoir vu Charlotte. Pour Marilyn, ce jeune homme sait forcément où se trouve sa fille. Mais devant l'inaction de la police, c'est Anaïs, aidée de Jean-Marc, le beau-père de Charlotte, qui va remonter la piste d'Anthony jusqu'à Bruxelles.
Il me dit que Charlotte n'a pas dormi là, qu'il pensait qu'on allait la rechercher, que lui, il avait reconduit un couple d'amis qui avait bu, et quand il est revenu, elle n'était plus là.
Estomaqué, Anaïs et Jean-Marc s'interrogent. Comment Anthony a-t-il pu abandonner Charlotte hier soir? Et surtout, dit-il la vérité? Ils en doutent et font pression sur lui.
Il ne voulait pas aller au commissariat, il voulait que ce soit un ami à lui policier qui s'occupe de l'affaire. Il n'était pas plus inquiet que ça, en fait.
Les parents ont la certitude à ce moment-là qu'Anthony aurait pu jouer un rôle dans la disparition de leur fille.
Une certitude qui leur donne la force de convaincre Anthony de les suivre au commissariat afin de témoigner.
C'est un personnage probablement sans qui tout ça ne serait pas arrivé, parce que si elle était là seule et qu'elle s'est retrouvée seule, c'est probablement pour être avec Anthony.
Entendu, Anthony va livrer un alibi qui doit être vérifié dans les heures qui suivent. Et alors que tous les espoirs étaient encore permis, les dires du jeune homme sont confirmés. Cette piste s'effondre. Marilyn, la maman de Charlotte, est désemparée.
Elle avait l'espoir de la retrouver, elle ne dormait plus, elle était toujours devant la porte, voir si elle rentrait. À chaque fois qu'on sonnait, elle courait, voir si c'était Charlotte. Tout faisait penser à Charlotte, en fait.
La nuit tombe doucement sur Oudin. Et cela fait déjà presque 24 heures que Charlotte a disparu. Comment cette adolescente a-t-elle pu se volatiliser dans les rues de Bruxelles? Et si Anthony n'est plus suspect, qui a bien pu s'en prendre à elle? Mais surtout, a-t-on encore l'espoir de la retrouver vivante? Près de 35 heures après la disparition de Charlotte, un véritable coup de théâtre va se jouer. Il est 10 heures du matin, lorsque Maître Debeco, avocat au barreau de Bruxelles, reçoit le coup de téléphone d'un homme, visiblement paniqué. Il s'appelle Nicolas Psani. Et il déclare être l'auteur d'un meurtre.
D'emblée, il me dit « Écoutez, voilà, j'ai tué quelqu'un hier et je tiens absolument à me constituer prisonnier. » Moi, j'ai l'impression, mais c'est une impression, d'avoir devant moi quelqu'un d'effondré qui a le sentiment d'avoir commis l'irréparable et d'avoir commis quelque chose d'énormes qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et j'ai en même temps l'impression d'avoir quelqu'un de très volontaire qui a une idée en tête, me constituer prisonnier et permettre que l'on retrouve le corps.
Maître Debeco comprend la gravité de la situation et convoque immédiatement l'homme à son cabinet. Sur place, il lui déclare ne pas connaître le nom et le prénom de sa victime et ne pas savoir ce qu'il a fait du cadavre. Seule certitude, il s'agit d'une jeune fille. Dans l'urgence, et sur les conseils du juge d'instruction, l'avocat et son client se rendent au commissariat le plus proche afin de recueillir sa première déposition.
Pendant le trajet, je sens quelqu'un d'effondré et donc d'inquiet. Je pense qu'une de ses inquiétudes, c'était notamment que l'on ne retrouve pas le corps, parce qu'il ne savait plus très bien dans l'état où il était, où il l'avait déposé. Et donc, je sentais que chez lui, c'était sa préoccupation principale.
Pendant ce temps, à Oudin, après une nuit interminable d'angoisse, la mère de Charlotte décide de faire appel à Child Focus. Cette fondation réputée en Belgique collabore régulièrement avec les forces de l'ordre. Sa mission, soutenir les familles et aider à la recherche d'enfants disparus. Lise Laura, conseillère disparition, entend le cri du cœur de cette maman et décide de lancer une campagne d'affichage pour retrouver Charlotte.
Ensemble, on a cherché différentes photos de Charlotte. Donc les photos sont destinées évidemment à être posées sur les affiches avec une description de Charlotte pour aider le plus rapidement possible à la retrouver.
C'est vrai que ça fait... C'est un soutien quand même qui fait du bien de personnes étrangères. Allez.
Ça a tendance à rassurer évidemment la famille parce qu'ils ont l'impression de contribuer aussi à la recherche de Charlotte à ce moment-là.
Munie de photos de Charlotte, Lise Laurac, conseillère disparition de Child Focus, quitte la maison familiale. Son objectif, lancer en urgence un appel à témoins dans la presse pour retrouver au plus vite la jeune fille.
Dans la voiture, je me souviens avoir reçu un appel de la police qui me dit qu'il n'y aura pas d'avis presse ce soir-là parce qu'il y a des éléments d'enquête qui doivent encore être vérifiés et donc il n'y aura pas d'avis presse ce soir-là.
Et si les enquêteurs refusent la diffusion de l'avis de presse, c'est qu'ils viennent d'apprendre qu'un certain Nicolas Sanima vient de se constituer prisonnier pour meurtre. Ils redoutent le pire.
Les enquêteurs vont faire un rapprochement entre ce qu'il déclare, alors qu'il déclare avoir tué une jeune fille dont il ne connaît ni le nom ni le prénom, et la disparition de Charlotte, que l'on avait perdu de vue depuis la veille.
Les informations fournies par Nicolas Sanima, l'homme qui vient de se constituer prisonnier, corroborent-elles avec les éléments recueillis sur la disparition de Charlotte ? Nicolas Sanima serait-il son meurtrier ? Ou bien Charlotte est-elle toujours en vie ? Mais où ? Ce lundi, en fin de journée, bien qu'entourée de ses proches et des amis de Charlotte, Marilyn n'arrive pas à se raisonner. C'est une mère dévastée qui appréhende une nouvelle nuit sans sa fille. Pendant ce temps, au commissariat de Bruxelles, Nicolas Sanima est auditionné.
Une photo est transmise par les services de police de la Louvière au service de police bruxellois et cette photo est montrée in fine de l'audition de M. Sanima et on lui demande s'il reconnaît Charlotte, ce qu'il fait. Il est certain, à plus de 90%, 90%, que c'est effectivement elle.
Les enquêteurs recoupent les éléments de preuve sans pouvoir cependant prévenir la famille de Charlotte. Si Nicolas Sanima dit avoir reconnu sa victime, il reste évasif. Qu'a-t-il fait de la dépouille ? Il ne le sait pas. La police doit à tout prix retrouver le corps et formellement l'identifier. Une tâche qui va s'avérer difficile au vu des déclarations confuses de Nicolas Sanima.
Le premier réflexe a été un réflexe peut-être humain. Malheureusement, de se dire « moi, je vais me débarrasser du corps et cacher ce corps quelque part ». Et c'est comme cela qu'à ce moment-là, il appelle un ami en lui demandant de lui apporter une voiture et le long d'un canal, dans un renfoncement, dans un fossé, il va finalement déposer la valise avec le corps.
C'est donc à la recherche d'une valise que se lancent les enquêteurs. Commencent alors d'interminables fouilles jusqu'à la sinistre découverte. La valise est retrouvée abandonnée sur le bord de la route, à côté du canal du centre. À l'intérieur, les policiers sont face à l'horreur. Le corps frêle d'une jeune femme, plié en deux. Il s'agit bien de Charlotte.
On a espéré la retrouver vivante. Où on a espéré pouvoir encore la serrer dans ses bras et lui dire qu'on l'aimait. Et ici, la réponse a été d'apprendre que ce décès n'est pas un décès accidentel.
Pendant que la police scientifique transporte le corps à l'Institut médico-légal pour les premières analyses, les enquêteurs ont la lourde tâche d'annoncer le décès de Charlotte à sa maman.
Je vois encore cette voiture-là arriver, les gens qui descendent, qui rentrent. Et moi, dans ma tête, c'est des amis ou des copains à Jonathan ou à Charlotte. Allez. Et puis quand ils disent que c'est la police en civil, je suis restée... Et alors là, bon, ils annoncent qu'on l'a retrouvée sans vie.
Marine, elle a fait une syncope, elle est tombée dans les vapes. On a dû appeler le médecin, tout le monde pleurait, tout le monde partait, revenait.
Je me suis assise et je sais, j'ai plus su... parler, j'ai pas pleuré, je serais pas expliqué, comme si tout s'écroule dans nous.
Sa fille est morte, assassinée. Pour Marilyn, c'est le vide, l'horreur, l'impensable. Peut-on seulement se remettre d'un acte d'une telle barbarie ? Pourquoi Nicolas Sanima s'en est-il pris à cette jeune fille, à peine majeure ? Quel calvaire Charlotte a-t-elle enduré ? pour se retrouver morte, enfermée, dans une valise. Pour mieux cerner le profil de Nicolas Sahanim et comprendre les raisons de son geste, les enquêteurs se penchent sur sa vie. Son père décède alors qu'il n'est qu'un enfant. Commence alors une autre vie, seul, avec sa mère et son frère. Déscolarisé très tôt, il erre de petit boulot en petit boulot. Au moment des faits, âgé de 33 ans, il gère un petit centre de paris sportif. Et il semble avoir trouvé une forme de stabilité.
Tous le décrivent justement comme quelqu'un de très convivial, de très généreux, quelqu'un qui était toujours là pour les autres. Son seul défaut, pour autant que ça en soit, il sortait, aimait bien sortir. Mais ce qui nous paraît important, c'est que justement les gens qui l'ont fréquenté en soirée, même en boîte pour ainsi dire, décrivent quelqu'un qui, même sous influence de l'alcool, restait un bon vivant.
Mais la personnalité de M. Sahanim n'est pas aussi limpide, puisque deux plaintes pour violence sur femme ont déjà été déposées contre lui. C'est cet homme que Charlotte a le malheur de rencontrer samedi soir. Se serait-il parlé durant la soirée ? Les avis divergent, mais vers 5h45, ils prennent un taxi pour se rendre chez lui.
Lorsqu'ils arrivent à son domicile, Charlotte lui dit qu'elle a faim, qu'elle s'assit dans son canapé, qu'il lui lance un DVD et qu'il va lui préparer à manger.
Elle aurait alors profité de son absence pour lancer un appel à l'aide.
Elle envoie un SMS à une de ses connaissances, mais qui n'est pas un ami, qui n'est pas quelqu'un de proche, et à qui elle va demander en langage texto de venir la chercher à Bruxelles parce qu'elle ne sait pas où elle est, parce qu'elle ne sait pas avec qui elle est et qu'elle veut rentrer. C'est en quelque sorte le dernier message, un message que je peux personnellement appeler un message de panique.
L'appel au secours de Charlotte reste sans réponse. Son téléphone est muet, alors que Sahanim, son prédateur, reviendrait au salon.
Il revient dans le canapé et il explique qu'il tente ce qu'on appelle une approche, enfin ce qu'il appelle une approche.
Et alors à ce moment-là, de manière tout à fait surprenante pour lui, elle réagit et elle a véritablement un moment de panique.
Le jeune homme aurait à ce moment-là réagi très violemment devant le refus de Charlotte.
Il lui met une main sur la bouche, une autre main autour du cou, et là, la situation bascule. Il explique lui qu'il se retrouve à un moment donné à califourchon sur sa cage thoracique, donc il faut savoir qu'il pèse près de 110 kilos, et donc à un moment donné, la victime, il faut peut-être 30 secondes, tombe inconsciente.
À cette agression bestiale, Charlotte ne survit pas, mais Monsieur Sahanim n'en a que faire. À cet instant, il aurait basculé dans l'horreur et donné libre cours à sa perversité.
L'aurait mordu au niveau des lèvres, l'aurait mordu au niveau d'un sein, et ensuite, de manière assez incompréhensible, l'aurait totalement déshabillé et aurait passé sa main sur ses parties génitales, dans ses parties génitales, pour, dit-il, vérifier qu'elle était effectivement décédée. C'est son point de vue.
Inanimé, le corps de la victime est allongé sur le sol. Face à cette situation, M. Sahanim aurait pu se livrer à la police. Au lieu de ça, il cherche une grande valise et y met le corps de sa victime.
Donc d'abord, il met le buste et alors il recroqueville les jambes et donc il plie le corps, il n'y a pas d'autre mot, pour le rentrer dans cette valise qu'il lestera par la suite avec deux pierres pour un poids total de 19 kilos. Donc on a une valise qui atteint près de 80 kilos et qu'il espère jeter au fond d'un canal.
Après avoir abandonné la valise avec le corps de Charlotte, Nicolas Sahanim retourne chez lui, ouvre son commerce et reprend le cours de sa vie. Alors peut-on croire la version de Nicolas Sahanim, le seul à pouvoir relater les faits ? Peut-on imaginer ? Pire scénario. Seule l'autopsie à venir pourra lever les zones d'ombre qui planent autour de cette affaire. Deux jours après la découverte du corps sans vie de Charlotte, les résultats tant attendus de l'autopsie tombent. Et ce qu'ils mettent en évidence est en totale contradiction avec les déclarations de Nicolas Anima. Visiblement, l'homme n'aurait pas tout dit.
L'autopsie nous permet tout d'abord de savoir qu'elle est décédée suite à un étouffement. Cet étouffement provient d'une part d'une obstruction des voies respiratoires au niveau du nez et de la bouche, provient également de manœuvres strangulatoires au niveau du cou, et enfin d'une compression thoracique.
L'autopsie révèle aussi qu'il n'y aurait pas eu, comme le prétend l'accusé, un seul et unique coup porté à hauteur du visage, mais plusieurs.
Alors qu'en garde à vue, Nicolas Sainim tente de minimiser la violence de ses coups, l'autopsie met en lumière un tout autre scénario.
Qui pourrait être, par exemple, de tenter d'avoir une relation sexuelle, que cette relation sexuelle est déniée, est vigoureusement déniée, et que finalement, soit on n'est pas du tout arrivé à ses fins, soit on y est arrivé, mais par la force.
Les enquêteurs commencent à comprendre le calvaire qu'aurait enduré la jeune Charlotte. Une fois encore, ils ont la mission douloureuse de prévenir la famille de l'avancée de leurs investigations.
Ils m'ont dit qu'elle était morte par asphyxie due à l'étranglement. Il s'est quand même acharné dessus, allez. Et alors ça me fait mal, parce que je me dis, moi qui les ai tant protégés, savoir que pour moi, elle a souffert ces derniers moments, et ça me fait mal. Mais bon.
Nicolas Sainim est donc inculpé pour meurtre. Mais en 2013, l'affaire connaît un tournant. Le procureur du roi change le chef d'accusation. À présent, le meurtrier présumé de Charlotte doit répondre pour meurtre, mais aussi pour viol.
Le ministère public va constater qu'au-delà du meurtre, il y a également des éléments laissant penser à l'existence d'un viol. Parce que les explications qui sont données par M. Sainim quant à l'introduction digitale au niveau sexuel sont des explications qui ne rencontrent pas les éléments du dossier. Ce qui fait que M. Sainim est actuellement renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre tant du meurtre que du viol.
Nicolas Sainim sera donc jugé en 2014 et risque une condamnation de 35 ans de prison pour le meurtre et le viol de Charlotte. L'avocat de la défense réclame, lui, la clémence pour son client.
Il sait qu'il sera condamné, il s'est constitué prisonnier, le terme le dit, il savait que c'est en prison qu'il allait, il sait qu'il sera condamné et la peine, quelle qu'elle soit, il l'acceptera. Le plus important peut-être pour lui, c'est de pouvoir s'expliquer, expliquer à la famille ce qui s'est passé, exprimer ses regrets, en espérant qu'on le comprendra quand même un tant soit peu et qu'on pourra tenir compte de tout cela et qu'on lui permettra quand même d'un jour reprendre sa place dans la société.
La famille, quant à elle, réclame que la justice soit rendue, une étape essentielle à son travail de deuil. En attendant le procès, par pudeur, Marilyn masque la haine et la colère qui la ronge.
Mais ils attendent avant tout, et plus que tout, qu'on puisse leur dire clairement ce qui s'est passé. Que si M. Sainim n'a pas dit toute la vérité, que la perche lui est encore tendue.
Depuis la mort de Charlotte, Marilyn est suivie par un psychologue pour surmonter cette épreuve. La perte de sa fille n'a fait que rajouter au coup dur de la vie qui déjà ne l'avait pas épargnée. Pour ses deux autres enfants, elle est prête à relever le défi et s'accroche à la vie.
Par moments, je dis, j'ai l'impression de ne plus être moi, parce que j'étais tellement sensible et tout. Et je dis, on m'a pris ce qu'on pouvait me prendre de plus cher au monde. Et même, des fois, j'arrive même plus à pleurer. Et elle me dit, c'est tellement que vous avez souffert. En fait, maintenant, il y a des barrières qui se sont mises votre cerveau se met en protection. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais j'ai perdu mon frère il y a 22 ans, ici, le 1er juillet. Mais mon frère s'est suicidé. Mes parents, ils se sont laissés aller. Et comment J'ai mal vécu là, le suicide de mon frère, parce que j'ai vu mes parents se détruire et tout ça. Et ici, je me dis, je voudrais jamais que mes enfants ils passent ce que j'ai passé. Donc, quelque part, ben, je m'interdis de pleurer, je m'interdis de... J'essaie d'être toujours normale pour ne pas les faire souffrir.
Crime à Bruxelles vous propose maintenant de revenir sur le meurtre mystérieux de Jessica, une mère de famille sans histoire, retrouvée morte étranglée à son domicile. Découvrez cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une femme en quête d'amour. Une quête qui va lui coûter la vie. C'est une enquête particulièrement complexe, auquel la police belge va être confrontée. Car cette proie facile aurait aussi bien pu être victime d'une mauvaise rencontre que d'un prétendant et conduit.
Elle était en recherche d'un grand amour. Et je pense que ça fait partie de sa fragilité et de sa vulnérabilité.
Nous sommes à Bruxelles, capitale de la Belgique et siège de la plupart des grandes institutions européennes. C'est dans le quartier bourgeois de Berkem-Sainte-Agathe, loin de l'agitation du centre-ville, qu'a choisi de vivre Christine.
Berkem-Sainte-Agathe, c'est un quartier résidentiel. Il n'y a pas d'industrie, pas de commerce. C'est un quartier calme.
Mais le matin du 7 octobre 2008, Christine, cette coiffeuse de profession de 45 ans, ne se présente pas à l'école de coiffure, où elle enseigne régulièrement. D'habitude très ponctuelle, s'absenter sans prévenir ne lui ressemble pas.
La directrice est très inquiète parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Elle prévient tout le temps si elle est malade, si elle a un problème. Et ici, pas de nouvelles. Donc la directrice décide d'appeler Jessica, sa fille.
Inquiète et fébrile, Jessica, la fille unique de Christine, se rend au plus vite chez sa mère pour s'assurer que tout va bien et que rien de grave ne s'est produit.
Christine ne répond toujours pas, ni au téléphone, ni à l'interphone. Pas de nouvelles, pas de possibilité d'accéder à son appartement. Donc Jessica prévient la concierge et elles essaient de passer par les balcons pour accéder à une baie vitrée et essayer de voir ce qui se passe dans l'appartement. Et là, elles ne voient rien, ni l'une ni l'autre, mais elles voient le sac de Christine sur la table. Donc Christine est bien dans l'appartement, mais on ne voit rien.
Aux appels lancés du balcon, Christine ne répond pas. Un lourd silence pèse dans l'appartement. Jessica a un mauvais pressentiment. Elle décide donc de prévenir les secours, qui, quelques minutes plus tard, pénètrent dans les lieux par la porte-fenêtre. Face à eux, se présente une scène d'une rare violence.
On trouve le corps allongé entre le canapé et la table de salon, enfin une grande table salle à manger salon. Il est sur le dos.
Elle est dans un état très... très laid.
Jessica est anéantie. Sans force, elle reste prostrée près du corps inerte et sans vie de sa mère.
Jessica n'est plus là, Jessica ne comprend pas ce qu'il se passe.
Bien évidemment, elle est effondrée puisque c'est elle qui découvre sa maman. Elle est submergée par le chagrin, et c'est normal, et puis par beaucoup d'incompréhension.
À l'annonce de la mort de Christine, sa famille s'effondre, submergée par la douleur. Un chagrin qui suscite aussi de nombreuses interrogations. Qui peut bien vouloir à Christine, au point de lui ôter la vie? Cette mère, aimante, connue pour sa douceur et sa gentillesse.
Le 7 octobre 2008, une instruction judiciaire est ouverte à charge de X. À charge de X, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas encore de piste, mais du chef de meurtre, bien évidemment.
Un meurtre qui, à ce stade, sonne comme un véritable mystère. Qui a pu s'en prendre aussi violemment à cette coiffeuse sans histoire? Que s'est-il réellement passé dans cet appartement? c'est ce que la police judiciaire fédérale des quartiers nord de Bruxelles va devoir déterminer. Dans le quartier de Berchem-Sainte-Agathe, le corps sans vie de Marie-Christine vient d'être découvert. Pour la police judiciaire fédérale, en charge de l'affaire, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un homicide. Arrivée en renfort sur les lieux du crime, la police technique et scientifique procède aux premières constatations.
Dans l'appartement, ce que l'on va remarquer, donc, outre le fait que cet appartement est extrêmement propre, l'ordinateur portable de Christine a disparu et ses clés ont également disparu.
Et on ne trouve pas le téléphone mobile de la victime. Alors que Jessica nous annonce que sa maman dispose, quasi comme tout le monde, d'un téléphone portable.
S'agirait-il alors d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné ?
Un bon nombre de tiroirs sont ouverts. Comme si, et c'est la réflexion de tout le monde sur le fait, comme si on avait voulu simuler un vol.
Effectivement, il y a des tiroirs qui sont ouverts, qui laissent cette impression que quelqu'un s'est introduit dans cet appartement et a souhaité voler Christine.
Les enquêteurs pensent donc avoir affaire à une scène de crime maquillée maladroitement en cambriolage. Et leur dernière découverte ne fait que confirmer ce sentiment.
Sur la table de la salle à manger, se trouve le portefeuille avec un peu d'argent, se trouve la carte d'identité, se trouvent les effets personnels de la victime, son sac. Donc, si on veut simuler un vol, c'est une des premières choses qu'il faudrait emporter.
Le doute n'est plus permis. Le coupable de ce terrible meurtre a bien orchestré une mise en scène. L'hypothèse du cambriolage, qui aurait mal tourné, est donc définitivement écartée.
On constate qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Et donc, dans notre idée, si on a un auteur, il faut qu'il connaisse la victime pour être entré ou qu'il doit avoir été accueilli par la victime. Ce qui aura évidemment de l'incidence pour la suite de nos investigations, parce qu'on ne cherche pas un inconnu dans la population, on cherche un inconnu proche de la victime. Ça réduit quand même nos recherches.
Et alors que la piste du proche fait son apparition, le médecin légiste dépêché sur place se concentre sur l'examen du corps de la victime.
On trouve le corps avec un chemisier de couleur claire qui est déchiré et légèrement ouvert et elle porte une jupe noire. Des bas rayés qui sont abîmés, elle ne porte pas de chaussures. On s'étonne un peu de cette tenue vestimentaire et on constate également donc qu'elle ne porte pas de sous-vêtements.
La tenue de la victime éveille les soupçons des enquêteurs.
Une des remarques, évidemment, compte tenu de la tenue vestimentaire et de l'absence de sous-vêtements, c'était de se dire, n'a-t-elle pas été victime d'une agression sexuelle ?
Une hypothèse qui laisse entrevoir un scénario des plus noirs.
Des prélèvements vont être effectués sur le corps de Christine. Il va y être effectué un relevé de fibres et de poils.
Ces constatations-là ont pour objet de retrouver des indices sur qui est l'auteur des faits.
Des analyses qui permettront peut-être d'identifier le meurtrier. En attendant les résultats, le corps de Christine est transporté à l'Institut médico-légal. Il présente d'importantes traces de strangulation, mais contre toute attente, aucune trace d'agression sexuelle. Christine serait donc morte, étranglée. Mais alors, si la thèse du viol et du cambriolage ne tiennent pas, dans quelles circonstances est-elle vraiment morte ? Le coupable se cache-t-il vraiment dans l'entourage de la coiffeuse ? Les analyses de la scène de crime n'apportant à ce jour que très peu de réponses, les enquêteurs n'ont d'autre choix que de fouiller le passé de Christine. Ils vont tenter de cerner sa personnalité dans l'espoir d'y déceler des pistes qui mèneront à son agresseur.
Tous les gens qui ont connu Christine la décrivent comme quelqu'un qui aime la vie, qui est jovial.
C'était une femme sensible et fragile, et qui avait un très grand sens de l'amitié, et qui était toujours en recherche de tendresse.
Propriétaire de son salon de coiffure, Christine est très appréciée car connue pour bichonner sa clientèle, avec qui elle partage une réelle complicité. Elle est aussi décrite comme étant une personne fidèle, généreuse, attentionnée.
C'était quelqu'un qui travaillait énormément, quelqu'un d'extrêmement courageux.
Elle avait une clientèle de dames plus âgées et elle n'hésitait pas à aller parfois en coiffer une chez elle si elle était souffrante ou si elle ne savait pas se déplacer. Elle était très à l'écoute de sa clientèle. Son travail, c'était une passion.
Christine s'investit beaucoup dans son travail, mais l'essentiel lui manque.
Le seul petit bémol, c'est qu'elle se sent seule et qu'elle voudrait nouer une relation stable et fructueuse avec quelqu'un.
Elle était en recherche d'un grand amour. Et je pense que ça fait partie de sa fragilité et de sa vulnérabilité.
À 45 ans, Christine vit seule. Restée très fleur bleue, elle rêve d'une vie stable et de mariage. Car à son grand désarroi, ses précédentes relations se sont toutes soldées par une séparation.
Christine a été mariée une fois, donc elle a été mariée avec le père de Jessica. Elle a par la suite eu des relations durables et puis elle a eu une relation de 4 ans avec Michel Snabil.
Michel Snabil est la dernière histoire d'amour en date de la jolie blonde. Sa sœur, Véronique, se souvient qu'à l'époque, Christine avait eu le coup de foudre.
Michel Snabil l'a rencontré, j'étais là, où exceptionnellement on était sortis à Bruxelles et il était là, c'est lui qui est venu vers elle.
C'est un monsieur d'un abord très agréable, très sympathique, qui engage facilement la conversation, bien éduqué, très poli.
Monsieur Le Snabil s'est présenté comme quelqu'un de très séducteur et beau parleur.
Christine tombe très vite amoureuse de ce chef d'entreprise qui, à ses yeux, représente la stabilité. Mais rapidement, la question de l'engagement devient source de conflits entre eux.
Elle voulait se marier et lui ne voulait pas. Et ça a été un sujet de discussion tabou parce que ça revenait tout le temps dans la discussion et lui ne voulait pas.
Christine et Michel Snabil se sont séparés en réalité parce qu'il y avait une incompatibilité qui résultait essentiellement de la volonté de Christine de se marier.
À 45 ans, Christine vit cette rupture comme un échec amoureux de plus.
Je pense que c'était dur pour elle parce qu'elle pensait réellement que ça allait fonctionner, qu'ils pourraient vivre ensemble et vieillir ensemble.
Malgré cette peine de cœur et sa fragilité, Christine est une femme forte, déterminée. Elle décide de prendre sa vie en main et repart en quête de l'âme sœur.
Elle sortait, elle allait au restaurant, elle fréquentait des réunions ou des assemblées de célibataires.
Elle parcourt manifestement les annonces aussi et semble y répondre de temps en temps.
Et elle avait répondu à nouveau à une petite annonce. Elle avait passé notamment le 4 octobre 2008 une soirée très agréable et elle était heureuse.
Alors, Christine se serait-elle mise en danger lors de ces soirées entre célibataires? Qui est cet homme mystérieux avec qui elle venait de passer la soirée? Ces différentes ruptures peuvent-elles être à l'origine de son meurtre? À Bruxelles, cela fait 2 jours que Christine a été sauvagement assassinée dans son appartement. À ce stade de l'enquête, les policiers décident d'orienter leur recherche du côté de la vie amoureuse de la victime.
Une des premières pistes était un homme qu'elle avait rencontré le week-end précédent son décès. Et donc on se disait que ça pouvait être la bonne voie. Et donc on s'est empressé de rencontrer cet homme-là, et puis de le questionner et de se rendre compte que il n'était pas, en tout cas à notre sens, immédiatement impliqué.
Cette première piste éliminée, les enquêteurs vont méticuleusement décortiquer la liste d'appels de son téléphone portable.
Quand on a eu fait le cercle de ses amis, dans le cercle de ses amis s'est retrouvé Michel Snabil, son ancien amant, son ancien concubin, l'homme avec lequel elle a partagé un petit bout de vie, mais duquel elle est séparée depuis grosso modo 8 mois.
Convoqué au commissariat, Michel Snabil se montre particulièrement affecté par la mort de son ex-concubine. D'ailleurs, un peu trop au goût des enquêteurs.
Il pleure, il se plaint en disant que s'il n'avait pas quitté, s'il avait accepté de l'épouser, on n'en serait pas là.
Comment peut-on faire autant mal à une femme si gentille, si douce, enfin, quel monstre cet homme. Oh, je n'en peux plus.
Un comportement étrange, mais les policiers n'ont rien à opposer au chef d'entreprise. L'homme a un alibi et n'aurait pas revu la victime depuis des mois. Il ne fait donc pas figure de suspect dans cette affaire.
Il déclarera avoir eu un emploi du temps chargé la veille des faits et n'avoir plus aucune relation avec Christine depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
L'histoire nous paraît cohérente. Dans son comportement, on ne remarque rien de particulier. Et donc, on ne l'exclut pas, mais on le met quand même un peu de côté en se disant, voilà, il nous a raconté son histoire, il nous a raconté ses dernières fréquentations.
Les mois passent et l'enquête piétine. L'appel à témoins et l'enquête de voisinage ne débouchent sur rien. Des entretiens et des investigations policières, aucune piste sérieuse ne ressort.
On exploite alors tout ce qui est fibre et poils, donc tout ce qui a été relevé sur le corps de la victime, et là de constater qu'on a des éléments intéressants. Le juge d'instruction décide à ce moment-là de faire procéder au prélèvement ADN bien, de tous les hommes que nous avons rencontrés dans notre dossier.
Coup de théâtre à la police judiciaire. Les analyses et les tests d'ADN ouvrent une brèche et redonnent un coup de fouet à l'enquête.
On se retrouve au mois de mai-juin avec, à un moment donné, donc, ce que l'on appelle un match, c'est-à-dire une correspondance entre des cheveux en comparaison avec une trace qui est celle de Michel Snabil.
Michel Snabil aurait donc menti. Son ADN, retrouvé sur la scène de crime, fait de lui le suspect numéro un.
On revoit ses déplacements et donc ses divers contacts. On revoit à ce moment-là ses analyses de mouvements bancaires. Et on essaye de, mais de manière discrète, on essaye de s'établir un emploi du temps pour pouvoir déterminer où se trouvait Michel Snabil au moment des faits.
Pour confondre le chef d'entreprise, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale vont alors intensifier leurs investigations. Un travail qui va s'avérer payant.
C'est incontournable, il se trouvait de l'autre côté de la ville. Nous, il nous dit, je suis chez moi à la maison. On dit, c'est pas possible. Il ne peut pas être chez lui à la maison, ce qui est le contenu de ses premières déclarations, alors que son téléphone et sa carte de crédit est utilisé à peu près de l'autre côté de la ville.
Le 6 octobre 2009, le magistrat instructeur va placer son mandat d'arrêt Michel Snabil parce qu'il a des indices sérieux de culpabilité. Ces indices sérieux de culpabilité se sont, depuis maintenant plus d'un an, accumulés.
Placé en garde à vue, l'ancien compagnon de Christine va devoir s'expliquer. Un face-à-face avec la police qui va s'avérer déterminant pour la suite de l'affaire. Alors, l'homme passera-t-il aux aveux ? A-t-il vraiment commis l'irréparable ? Et si oui, quel est son mobile ? Placé en garde à vue, un an exactement après le meurtre de Christine, Michel Snabil ne fléchit toujours pas. Malgré les indices réunis par les enquêteurs, il soutient qu'il était chez lui à l'heure du meurtre. Le commissaire tente un coup de poker, la dernière tentative pour le faire passer aux aveux.
À ce moment-là, je prends la décision de lui donner une feuille blanche et de dire à Michel Snabil, écrivez-moi votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là.
Une stratégie qui va donc s'avérer payante. Michel Snabil aime parler de lui, alors il va se livrer sur papier.
Je constate qu'il indique qu'il était présent, alors que jusque-là, il avait dit le contraire. Il me donne même l'heure, ce qui correspond plus ou moins à l'analyse médico-légale. Il se rend compte de ce qu'il venait de faire et de me dire très rapidement « Non, non, mais non, ne tenez pas compte de ce document, ce n'est pas vrai, je mens, enfin, j'affabule, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. »
L'homme est pris à son propre piège. Son besoin de briller lui fait perdre le contrôle. Conscient de sa bévue, l'accusé s'empêtre alors dans de nombreux mensonges et dévoile enfin sa vraie personnalité.
Petit à petit, je constate qu'il est un peu manipulateur et il est surtout affabulateur.
Il s'est inventé une vie avec de riches milliardaires. Il s'invente des voyages à Monaco. C'est quelqu'un de manipulateur.
Parallèlement à son audition, les enquêteurs entendent aussi les proches de l'accusé. André, une ancienne amie de Michel, apporte un témoignage accablant qui éclaire les enquêteurs sur le personnage.
Il a un regard très négatif sur les femmes, pas devant elles. Il y a toujours quelque chose de négatif à dire ou une critique, mais souvent, souvent sexuelle. Je crois que c'est un monsieur, quand il a obtenu quelque chose, il s'en lasse et rejoue le jeu sur une autre.
Un personnage décrit comme sexiste et affabulateur qui manipulerait donc son monde depuis le début de l'instruction. Une posture qu'il maintient, même lorsque le juge réclame une reconstitution des faits.
On se rend donc dans l'appartement de Christina Zeuvel que l'on réorganise à peu près à l'identique et on demande à Michel Sneby de reposer les actes de cette fameuse soirée. Et là, c'est un théâtre, c'est un spectacle. Il est très précis sur toute une série d'événements. Et alors le sommet, c'est lorsque, en chutant sur la victime, donc on voit bien clairement qu'il la serre autour du cou, qu'il lui met quelque chose sur la bouche.
Michel Snabil semble prendre plaisir à se mettre en scène. Pourtant, au moment de rejouer le meurtre dans ses détails, il feint l'amnésie et évoque un simple accident.
Pour arriver à faire décéder une personne par étouffement ou par strangulation, il faut au moins maintenir la pression pendant 40 secondes. 40 secondes, c'est extrêmement long. Ce sont des scènes d'une violence incroyable. La victime, elle ne se laisse pas faire, elle se débat.
À l'issue de cette reconstitution, Michel Snabil avoue sans avouer et ne livre aucun mobile. Mais pour les enquêteurs, pas de doute. Aveu circonstancié ou non, il est bien l'auteur d'un meurtre.
S'il y avait encore un moindre doute dans notre esprit d'enquêteur, quand on a vu cette reconstitution et cette participation active, cet enthousiasme à participer de Michel Snabil, il n'y avait plus de doute quant à l'implication de Michel Snabil dans le décès.
Véronique, la sœur de Christine, se sent trompée et abusée par cet homme qui refuse de donner des explications à son geste barbare.
On a énormément de haine et en même temps on se sent trahi à un point. Avoir joué avec nous comme ça pendant un an en sachant très bien que toute la famille était sous le choc, qu'on espérait des réponses, qu'on attendait des nouvelles, on était outrés.
Michel Snabil est inculpé du meurtre de Christine et devra répondre de ses actes lors du procès à venir. Alors, avouera-t-il enfin les raisons qui l'ont poussé à tuer Christine ? La famille aura-t-elle enfin les réponses aux questions qui les hantent ? Coup de théâtre. Dans l'affaire Michel Snabil, quelques mois après sa mise en détention provisoire, l'homme, inculpé pour meurtre, est remis en liberté surveillée. Aux yeux du juge d'instruction, le meurtrier présumé de Christine ne représente pas une menace. C'est donc libre qu'il comparaîtra à son procès.
Une détention préventive ne se justifie sur le plan juridique qu'à condition que l'accusé présente un danger pour la société, qu'il y ait un risque de récidive, qu'il y ait un risque de faire disparaître des éléments de preuve, ou qu'il y a un risque qu'il se soustrait à l'action de la justice.
Le procès s'ouvre donc le 18 mars 2013 à la cour d'assises de Bruxelles, soit plus de 4 ans après le meurtre de Christine. Pour la famille, croiser cet homme libre devant le palais de justice est une épreuve insoutenable.
Vous dites comment il peut être là comme ça? Comment est-ce que pendant le procès, il n'est même pas incarcéré, il arrivait en cabriolet, comme à un défilé de mannequins?
Face à la cour et à la famille, Michel Snabi reste fidèle à lui-même. Il délivre un discours mécanique et sans humanité.
Il ne fera aucune manifestation de regret, de remords, et il se comportera d'une façon relativement odieuse vis-à-vis de la famille, puisqu'il ne leur accordera même pas un regard.
Un comportement froid, mais pas seulement. L'homme ne donne aucune explication à son geste. Mais pour les experts qui se succèdent à la barre, c'est la frustration qui aurait été le moteur du crime pour Michel Snabil. Ne supportant pas que Christine le repousse, il aurait commis l'irréparable.
Il a dû être, j'imagine, dépassé par je ne sais quel affect insupportable. Vraisemblablement qu'on lui a dit non. Il s'est trouvé encore rejeté, beaucoup plus déchet, rien du tout. C'est là-dessus qu'il a dû très vraisemblablement faire ce qu'il a fait, quoi.
À l'issue de 6 jours de procès éprouvant, les jurés le condamnent à 12 ans d'emprisonnement. Mais à la grande stupéfaction de la famille, l'avocat général ne réclame pas son arrestation immédiate. Malgré sa condamnation, il quitte la cour d'assises en toute liberté.
On se dit que c'est pas possible, que la justice ne va pas accepter, qu'on ne va pas le relâcher, qu'il a joué avec tout le monde, les enquêteurs, avec nous pendant si longtemps, pour arriver quand même à des aveux. Donc on se dit que la justice ne va jamais accepter une libération. Et oui, la justice accepte.
Contrairement à la France, où les peines prononcées en cour d'assises sont exécutées sans délai, il est fréquent, en Belgique, où les prisons sont surchargées, que la justice attende pour placer en détention un condamné. Michel Snabil est donc sous liberté surveillée jusqu'à réception de son billet d'écrou qui le mènera tout droit en prison pour purger sa peine. Depuis le procès, les mois ont passé. Michel Snabil a finalement été incarcéré 4 mois après le verdict. Une consolation bien maigre pour la famille de Christine, marqué à jamais par sa brutale disparition.
Oui, on se dit que la vie continue, mais ça ne sert à rien. Le jugement, finalement, ne sert pas à grand-chose. On espérait qu'il soit bien puni. Bon, la punition n'est pas énorme, mais pour nous, le chagrin est toujours le même. Ça ne soulage pas notre peine du tout, du tout.
Crime se rend à présent à Mons, dans la région wallonne, pour vous raconter l'histoire énigmatique d'un redoutable dépeceur. Une affaire sordide qui va mobiliser les services d'enquête durant 16 ans. Voici ce document exclusif pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez voir comment une ville entière va être traumatisée par la folie meurtrière d'un tueur sanguinaire.
C'est une affaire qui défrayait la chronique. C'est tous les jours qu'on découvrait des morceaux de corps, des morceaux de cadavres sur différents sites.
Mons, une petite ville belge située à 40 km de la France. Discrète et sans histoire, la commune est surtout connue pour sa richesse culturelle. Nous sommes en mars 1997. Tout est calme, y compris à Couem, une petite bourgade de la ville. Pourtant, ce jour de mars, un véritable drame va se jouer dans cette rue.
C'est le début du printemps, il fait relativement beau. Il y a à Mons des policiers à cheval et un de ces policiers va prendre son service. Nous sommes un samedi. Et lorsqu'il passe au-dessus du pont du chemin de fer de Couem, il remarque un chat qui joue avec ce qui ressemble à une main humaine.
Une main qui dépasserait d'un vulgaire sac poubelle. Le policier à cheval croit halluciner et s'engage alors un peu plus loin pour lever ses doutes.
En s'approchant de ces sacs poubelles qui semblaient hermétiquement fermés, alors qu'il pensait y trouver quelque chose de l'ordre du déchet, il a trouvé des déchets, mais des déchets humains, des restes humains.
On retrouve des membres, c'est-à-dire des jambes, des pieds, des bras.
Face aux policiers, des restes humains sont bel et bien dissimulés dans un sac. Mais en regardant de plus près, le policier découvre qu'il n'y a pas un, mais 9 sacs poubelles. Une vision d'horreur à laquelle il ne s'attendait pas.
Il est vraiment atterré, il a été très choqué, et mais il a eu la bonne réaction, bien sûr, de prévenir immédiatement les autorités. Donc la police judiciaire est descendue immédiatement, le parquet, on a installé une zone de sécurité.
Sur place, les policiers constatent eux aussi l'horreur. Des jambes, des mains et des pieds sont disséminés dans des sacs poubelles qui sont alors immédiatement transportés pour expertise à l'Institut médico-légal. Dès lors, une enquête hors du commun commence à Mons. Comment des restes humains ont-ils pu se retrouver en plein cœur de la ville? Mais surtout, à qui appartiennent-ils? Rue Van der Velde, à Mons. Les enquêteurs sont sur le qui-vive. Ils espèrent que le tueur a laissé un indice pour remonter sa piste. Chaque recoin est alors passé au peigne fin.
On ne retrouve rien qui permette de relier directement les faits à un auteur.
Sans le moindre indice, les policiers présents sur le terrain misent tout sur le travail des médecins légistes. Un travail fastidieux qui va pourtant permettre de procéder aux premières constatations. Une tâche qui s'annonce extrêmement difficile pour les techniciens de l'identification criminelle, car aucun corps n'est entier.
L'état de putréfaction des membres retrouvés était fort différent. Il y avait des membres très putréfiés, d'autres moins, et d'autres déposés récemment.
Il faudra à peu près quelques jours pour que le rapport d'autopsie permette d'indiquer que, je crois, il s'agit de corps, de morceaux de corps provenant de 3 femmes différentes.
3 femmes découpées en morceaux que les policiers vont devoir formellement identifier. Dès lors, à Mons, tout le monde se demande qui s'est rendu coupable d'un acte aussi barbare.
La ville de Mons est en alerte, les gens sont choqués, bien entendu, et leur attention est attirée à chaque fois qu'ils voient quelque part des sacs poubelles, des endroits un petit peu particuliers, sur des décharges sauvages. Et c'est comme ça que ce camionneur, ce chauffeur de poids lourd signale la présence d'un sac au chemin de l'inquiétude et qu'une passante signale aussi la présence de ces sacs à la rue du dépôt à Avray.
24 heures à peine après la découverte des premiers restes humains, c'est la stupeur. Un nouveau sac poubelle est découvert, cette fois au chemin de l'inquiétude. À l'intérieur, les policiers y découvrent un tronc. Après analyse, ils apprennent qu'il appartient à une des 3 femmes non identifiées. comme pour les autres restes humains, la signature criminelle est exactement la même.
L'instrument qui est utilisé, en fait, il y en a apparemment deux. Il y a à la fois un scalpel et une scie à métaux. Et c'est principalement la scie à métaux qui est utilisée pour effectuer ce dépeçage.
Je vous demande d'imaginer le temps qu'il faut pour couper un membre humain. Si on a une hache, ça peut se faire rapidement. Ici, on sait que a été utilisée une scie, et pas n'importe quelle scie, puisque c'est une scie très fine qui permet des découpes très précises. Il faut donc un acharnement, deux, de la patience pour pouvoir arriver à bout, et de membres qui sont quand même d'une certaine épaisseur.
Une scie à métaux utilisée avec la plus grande des minuties. Pour les policiers, il n'y a aucun doute, le ou les tueurs connaissent parfaitement l'anatomie humaine.
Lorsque l'on constate la précision avec laquelle certaines découpes, voire toutes les découpes, ont été réalisées, l'enquête peut légitimement se porter vers des professionnels, oserais-je dire, de la découpe, à savoir des chirurgiens, médecins, bouchers, en outre des personnes qui ont peut-être une certaine approche du sang.
Pour la première fois, les policiers ont une piste sérieuse. Sans tarder, ils ratissent le secteur à la recherche d'un médecin ou d'un boucher comme potentiel tueur. Les recherches seront-elles fructueuses ? Permettront-elles de mettre un nom sur les trois victimes non identifiées ? À Mons, les bouchers et les médecins sont, du jour au lendemain, considérés comme des suspects numéro un. Problème, cette piste est bien trop vaste et les analyses ADN pratiquées sur les restes humains ne correspondent à aucune personne fichée. Côté enquête de voisinage, aucun résultat non plus. Les policiers décident alors de réorienter leurs investigations.
La manière de travailler des policiers pour l'identification a été de tenter de retrouver dans un périmètre relativement large le nombre de personnes récemment déclarées disparues, de sexe féminin, de plus ou moins tel âge, etc., etc.
Parmi les récentes disparitions, il y en a bien une qui inquiète particulièrement les policiers, celle de Jacqueline Leclerc. 3 mois plus tôt, la jeune femme de 33 ans avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Une absence étrange et un silence inhabituel qui, à l'époque, avait plongé dans l'inquiétude sa sœur, Georgette.
Je cherchais ma sœur avec ma mère, mon fils et un ami. Donc mon ami et le copain de mon fils d'un côté, maman et moi d'un autre côté. On collait les affiches, on posait des questions et pas de coup de fil, pas rien. Pas de coup de fil, absolument rien. Ni lundi, ni mardi. Et là, mardi, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave déjà.
Georgette avait donc signalé aux forces de l'ordre la disparition de sa sœur. Une enquête avait révélé que son couple battait de l'aile au point qu'elle avait été obligée de se séparer de ses 4 enfants.
C'est vrai que la séparation de ses enfants l'a rendue fragile. Hein, et puis elle s'est retrouvée quand même seule, hein, avoir ses 4 enfants tout le temps et puis du jour au lendemain ne plus les avoir. Ça a été un changement de vie pour elle radical, quoi.
Les policiers de Mons, en charge de l'affaire des sacs plastiques, s'intéressent alors de près au mari de Jacqueline Leclerc. Mais très vite, l'homme est mis hors de cause. Mais il va leur apprendre que sa compagne avait un signe distinctif. Un tatouage sur l'avant-bras gauche. Un élément précieux qui coïncide étrangement avec un des restes humains retrouvés rue Van der Velde.
Sur un des bras, on se rend compte que le tueur a gratté au niveau du poignet, a gratté la peau.
Apparemment, c'était avec une brosse ou en métal, enfin une brosse avec des poils très très durs. Ça montre tout simplement que le tueur veut effacer toute trace corporelle qu'il aurait pu laisser sur les corps.
Il n'y a aucun doute. L'une des trois victimes retrouvées en morceaux est bien Jacqueline Leclerc. Loin d'imaginer ce qui se trame, sa sœur Georgette va découvrir l'impensable.
Ma maman m'appelle, me dit « Viens, vite, Georgette, c'est le journal. »
Les recherches ont en effet pris fin vers 14h cet après-midi. C'est ici, sur cette route et dans le fossé à côté, que les deux sacs poubelles ont été retrouvés. La route est située juste à côté des terris.
Et qu'est-ce qu'on voit ? Ouf ! La photo de ma sœur.
À la découverte de la terrible nouvelle, Georgette est en état de choc. Et lorsqu'elle apprend les détails sordides de la fin tragique de sa petite sœur, elle s'effondre.
On a retrouvé les deux bras et les deux jambes coupés en 8. Et on n'a pas retrouvé son tronc et on n'a pas retrouvé sa tête. On a explosé toutes les deux, maman et moi, parce que c'est inimaginable. Et d'apprendre ça par la télé, c'est très dur.
Malgré la douleur insurmontable, le mystère demeure. Qui a tué la sœur de Georgette ? Où sont les restes de son corps ? Le tueur va-t-il faire d'autres victimes ? Trois semaines sont passées depuis l'identification de Jacqueline Leclerc. Les deux autres victimes, elles, tardent à être identifiées. Pourtant, une nouvelle fois, à Mons, le tueur va frapper.
Il y avait un pied, un morceau de mollet. Et c'est comme ça que je me suis dit, ce ne sont pas des ossements d'animaux, ce sont des ossements humains pour moi.
En l'espace d'une semaine, quatre nouveaux sacs poubelles sont découverts. Mais cette fois, le tueur fou a laissé un indice, une tête. La panique s'empare alors de la ville. Tout le monde craint celui que la presse surnomme le dépeceur de Mons.
L'ambiance est évidemment une ambiance de psychose. Mons est une petite ville. On commence à en parler de plus en plus comme étant une ville en quelque sorte maudite. En tout cas maudite parce que il y aurait en son sein ce que l'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, le dépeceur de Mons.
C'est une affaire qui défrayait la chronique. C'est tous les jours qu'on découvrait des morceaux de corps, des morceaux de cadavres sur différents sites qui portent en plus des noms un petit peu particuliers, le chemin de l'inquiétude, le dépôt, la haine, etc.
À Mons, l'ambiance est délétère. Le dépeceur peut de nouveau tuer à tout moment. Désormais, tout le monde prend ses précautions.
Les femmes en particulier étaient, elles, particulièrement vigilantes et prudentes. Donc il y avait effectivement une certaine psychose et une certaine vigilance de la part de la population qui signalait à droite et à gauche des sacs suspects.
Face à l'ampleur de la psychose, la police judiciaire décide de créer une antenne spéciale uniquement dédiée à l'affaire du dépeceur de Mons. La cellule Corpus. C'est elle qui, au lendemain de la découverte de la tête, va permettre d'identifier une nouvelle victime, Nathalie Godard.
Cette victime qui est identifiée grâce au portrait robot, Nathalie Godard, c'est quelqu'un aussi qui est quelque peu marginalisé. Et on s'aperçoit qu'elle a vécu avec quelqu'un dans une caravane à Mons, qui est un gitan.
À 21 ans, Nathalie Godard est une femme particulièrement perdue et instable, qui entretient une relation tumultueuse avec son compagnon, Léopold.
Léopold Reigold, il appartient à une famille d'anciens nomades. Hein. Ils ont entretenu une relation sentimentale depuis quelques temps, mais sans plus. Quoi. Ils vivaient avec, elle disparaissait, elle suivait le premier venu, on ne savait plus où elle était, elle réapparaissait, donc c'était vraiment une vie de bâton de chaise.
Une vie de couple décousue, parfois empreinte de violence et de jalousie. Les enquêteurs de la cellule Corpus veulent en savoir plus sur ce fameux Léopold. Il est le dernier à avoir vu Nathalie Godard vivante.
lors de la disparition de Nathalie, il a passé une partie de la soirée avec elle. On a retrouvé chez lui, dans sa caravane, puisque c'est un gitan, un blouson ensanglanté. Et surtout, Léopold Drago a disparu de Mons lorsque l'affaire a éclaté.
À Mons, Léopold est introuvable. Pour les enquêteurs, c'est le signe qu'il est impliqué dans le meurtre et le dépeçage de sa compagne. Après plusieurs jours de cavale, l'homme refait surface et est immédiatement arrêté. Dans les locaux de la cellule Corpus, il livre une version des faits qui ne convainc personne.
En fait, il a disparu de Mons parce qu'il s'était bagarré avec une personne particulièrement violente. Il avait peur pour sa sécurité et en fait, il est allé se cacher dans sa famille, dans ce camp de gitans à Namur.
Les enquêteurs sont convaincus que Léopold ment et que le sang retrouvé sur la veste de Nathalie Godard est celui de sa compagne. L'homme est alors placé en détention provisoire, mais contre toute attente, les analyses ADN font voler en éclats toutes les certitudes des policiers.
Les analyses ADN vont montrer que ce sang provient en fait du gitan lui-même, de Léopold Drago, qui a été agressé le soir qui précède la disparition de Nathalie Godard.
On n'a rien trouvé, on n'a rien découvert, on n'a découvert aucun endroit, aucun véhicule qui aurait permis de transporter ces morceaux de corps et certainement aucun élément permettant de lui imputer de quelque manière que ce soit ce genre de comportement quant au dépeçage du corps de Nathalie Godard.
Léopold est immédiatement remis en liberté. Pour les enquêteurs de la cellule Corpus, c'est la déception. À cet instant précis, ils savent que le dépeceur de Mons court toujours. Alors, parviendront-ils à l'arrêter ? À Mons, les mois passent sans que les enquêteurs de la cellule Corpus n'aient la moindre piste ni le moindre suspect. Pire, en plus de leur échec, ils savent pertinemment que le dépeceur se joue d'eux à chaque fois qu'il passe à l'acte.
C'est quelqu'un qui savait, ou en tout cas qui pensait avoir une certaine puissance. Certaine puissance par rapport à ses victimes, certaine puissance par rapport à la police, par rapport à la population. Quelqu'un qui peut se dire à un moment donné, regardez ce dont je suis capable et on ne m'attrape pas.
En désespoir de cause, les enquêteurs font alors appel à plusieurs experts en psychologie criminelle, des profilers. Ils espèrent qu'ils pourront dresser le profil du dépeceur et ouvrir de nouvelles pistes.
Ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être un bon père de famille qui travaille normalement, que l'on croise dans la rue, qu'on l'on connaît. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu même respectable. En fait, on n'en sait rien, ça peut être n'importe qui.
Impossible donc pour les enquêteurs d'obtenir des caractéristiques précises du tueur. Alors que les investigations piétinent, l'espoir va pourtant renaître, grâce aux analyses ADN. Trois autres femmes sont finalement identifiées. Begonia Valencia, Carmelina Russo et Martine Bonne.
Begonia Valencia est une femme aussi particulièrement instable psychologiquement. Elle a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.
Carmelina Russo est une dame qui est mère de famille, qui malheureusement a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle et qui fréquentait certains milieux que l'on peut estimer être interlopes.
Martine Beaune est une femme qui vit un peu de la prostitution. Elle est très dépressive, esselée, un peu paumée, comme toutes les autres victimes du dépeceur.
Dès lors, les enquêteurs comprennent que le dépeceur s'attaque à des femmes vulnérables. En fouillant dans leur passé, ils s'aperçoivent qu'elles avaient un point commun, le quartier de la gare de Mons.
En 97, le quartier de la gare est un quartier assez glauque. Il y a des cafés assez louches tout autour de la gare, pas toujours très bien fréquentés. C'est un milieu proche aussi de la prostitution.
Pour les enquêteurs, le dépeceur est certainement un séducteur qui amadoue ses victimes en les charmant aux abords de la gare.
Les victimes ont dû suivre de leur plein gré le tueur qui est probablement quelqu'un qui inspire confiance.
Je pense que c'est quelqu'un dans ce style-là qui a pris tout son temps pour bien les analyser et puis qui a pris tout son temps pour attendre le bon moment pour le faire.
Pendant plusieurs mois, les enquêteurs planquent, observent, interrogent, mais rien n'y fait. Aucun homme ne correspond au dépeceur charmeur. Alors ils vont se pencher sur un établissement appelé Métropole et sur sa propriétaire, Monique Ganche.
Monique Ganche exploite un bistrot, un hôtel bistrot, juste en face de la gare de Mons et elle connaît les victimes. Elle connaît la plupart des victimes et on sait que la plupart des victimes fréquentaient son établissement. Donc tout naturellement, on va s'intéresser aux métropoles, on va s'intéresser à la patronne, on va s'intéresser aux serveurs qui travaillent dans cet établissement et aussi bien sûr aux clients.
Dès lors, le métropole est surveillé de jour comme de nuit. Et très vite, les enquêteurs vont réaliser que Monique Ganche, la patronne, connaît bel et bien les 5 victimes, et plus particulièrement, Jacqueline Leclerc.
Elle parlait avec elle, elle discutait, elle la calmait, elle se sentait moins seule. Et puis bon, quand elle rentrait, elle avait eu quelqu'un à qui parler, ça la soulageait.
Les relations privilégiées qu'entretenait la patronne avec les victimes intriguent les enquêteurs. Et si le dépeceur était en réalité une femme, une hypothèse qu'il n'avait pas envisagée. Monique Ganche va dès lors subir interrogatoire sur interrogatoire. Elle a accepté, pour crime, de revenir sur ce moment difficile.
Ils se sont acharnés sur moi, pensant qu'il y avait quelque chose. On me poussait pour me dire qu'il fallait dire la vérité, parce que sinon, je regardais les yeux complètement hébétés, je me disais, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que je vais vous apporter le dépeceur comme ça sur un plateau?
Convaincus que la patronne ment, les enquêteurs perquisitionnent son domicile et son établissement. Du jour au lendemain, Monique Ganche est considérée comme la suspecte numéro 1.
Ils ont tout démonté, j'ai eu la police scientifique qui sont venus chercher dans ma baignoire si des fois il n'y avait pas des restes.
Elle a subi des perquisitions, elle a été longuement interrogée, son personnel aussi, et bon, on n'a rien pu retenir contre elle.
Pour les enquêteurs, ce nouvel échec est retentissant. Dans la population, la crainte de voir le dépeceur faire de nouvelles victimes est omniprésente. La cellule Corpus parviendra-t-elle enfin à arrêter le tueur séducteur? Nous sommes en 2007. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le dépeceur de Mons n'a plus fait de victimes et qu'aucun sac poubelle n'a été retrouvé. 10 ans durant lesquels les enquêteurs ont suivi 1500 pistes et interpellé plus de 200 suspects sans le moindre résultat. Alors que l'affaire est au point mort, le salut va venir des États-Unis, où le procès d'un certain Smail Tulja vient de s'ouvrir.
Smail Tulja est originaire du Monténégro. Il est âgé de 67 ans lorsqu'il est arrêté pour des crimes en Monténégro, aussi pour le meurtre de sa dernière compagne en Albanie et pour un crime qu'il aurait commis en 1990 à New York où il était chauffeur de taxi. Mais vous l'avez aussi démembré, dépecé sa victime et déposé les morceaux dans plusieurs endroits, dans des sacs poubelles.
Pour la cellule Corpus, tout laisse à penser que Smail Tulja et peut-être le dépeceur de Mons, car ils vont s'apercevoir que l'homme a vécu en Belgique à la fin des années 90, et plus précisément au moment où ont été découverts les premiers sacs poubelles.
On a fait une enquête de voisinage, on a montré des photos, etc. Personne n'a reconnu ce personnage qui probablement n'a jamais mis les pieds à Mons à cette époque-là.
Sans aucun élément permettant de confondre Smail Touldja, les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de renoncer à cette piste étrangère. Pour les familles des victimes, qui espèrent alors encore que le dépeceur soit identifié, c'est une nouvelle déception.
Le dépeceur, soit il est mort, soit il est parti, loin peut-être, dans un autre pays, soit il est empêché, peut-être interné, peut-être détenu, ou alors il est tout simplement en sommeil. Il a retrouvé un certain équilibre psychologique, familial. Mais là, évidemment, c'est dangereux, parce que si un jour cet équilibre se rompt, eh bien, ce sera inévitablement la récidive.
17 ans d'enquête n'auront pas suffi à mettre un nom sur le dépeceur de Mons. En Belgique, c'est la seule affaire de tueur en série encore non élucidé. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans que les familles des victimes ne soient hantées par l'affaire du dépeceur. Toutes sont rongées par la quête de la vérité. Une quête impossible qui rend leur travail de deuil insurmontable.
Est-ce qu'elle a souffert? Est-ce qu'il la torturait? Est-ce qu'elle a... Elle était frappée, est-ce qu'elle était violée? C'est terrible de ne pas savoir. C'est vraiment terrible.